Garde Arem la Terre, écho de la journée de la biodiversité 2019 sur le campus Albi Follabour.
Excusez-moi,
oui,
je peux vous prendre 5 minutes pour Radio Albigès?
Pourquoi pas?
C'est-à-dire
que notre responsable est parti.
Alors, c'est juste pour vous questionner là, sur ce que vous faites avec les enfants. Qu'est-ce que vous leur montrez exactement?
Alors nous, ce que l'on fait, donc, nous sommes les Amis du Jardin.
Oui.
Une association qui est basée à Grouillet. Et donc ici, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons apporté des hôtels à insectes, des nichoirs et des mangeoires à oiseaux, simplement pour faire voir aux écoles les produits que nous préconisons à la fabrication de ces hôtels à insectes, uniquement par des matériaux de récupération.
Oui, il y a des tuiles, il y a de la brique.
Il n'y a absolument aucun matériau acheté. On récupère des planches, on récupère de la brique, on récupère toutes sortes de matériaux, et avec ça on fait nous-mêmes donc ces hôtels à insectes, ces nichoirs à oiseaux et des mangeoires également. Voilà notre but, et donc aujourd'hui nous sommes là simplement pour faire voir les matériaux qu'on peut utiliser à la création de ces donc, hôtels à insectes, et les pièges également à insectes pour les limaces et pour les escargots.
Tout ce qui est... Ça a été quoi les questions des enfants alors?
La question des enfants, c'était surtout de savoir comment créer un tel insecte, à quoi servent-ils, ouais. Quels sont les insectes qui viennent donc se loger à l'intérieur. Et donc voilà, ce sont les genres de questions que ces gamins posent. Quoi. Ils sont très, très curieux. Pour...
Est-ce qu'il y en a qui connaissaient un peu le principe quand même?
Déjà, ils en ont parlé à l'école par l'intermédiaire des enseignants qui leur ont dit effectivement voilà ce qui existe aujourd'hui, ce que l'on fait pour les insectes, pour les protéger d'une part, pour qu'ils puissent se reproduire. Et donc ils avaient déjà une petite connaissance par rapport à ce qu'ils pouvaient se faire. Et là aujourd'hui, ils voient de leurs yeux vus comment les choses peuvent se passer et comment peuvent-ils réaliser aussi chez eux, ouais, ces genres donc de fabrication. Voilà.
De la théorie à la pratique.
Tout à fait.
Voilà. Mais merci, votre prénom?
René.
Donc de l'association?
De l'association Les Amis du Jardin.
À Grouillet,
voilà, c'est ça.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Donc le bassin versant, on va dire, c'est l'endroit de l'eau qui s'écoule vraiment de la montagne, l'écoulement de l'eau tout au cours et qui va terminer à la mer. Oui, il y a plein d'éléments qui sont amovibles sur la maquette. Donc là, vous n'avez pas forcément le temps, mais il y a des petits éléments, d'après vous.
Qu'est-ce qu'on a dit?
Donc, d'après vous, s'il y a des petits éléments, si on a notre renard qui est d'un côté de l'autoroute, qui va vouloir passer de l'autre côté, est-ce qu'il va pouvoir?
Non.
Non. Et comment il va pouvoir faire?
Sinon,
ouais, mais sur l'autoroute, il peut pas passer.
Non, il peut pas parce que s'il arrive au milieu, il y a une voiture qui le fauche.
Ouais, alors nous, les hommes, qu'est-ce qu'on a pu faire pour l'aider? Ouais.
Un pont?
On a fait un pont, ouais. On a fait ce système-là. Donc en fait, on a fait des, entre guillemets, des ponts pour les grands mammifères. Est-ce que quelqu'un connaît ce nom?
Ouais, mais il y a de l'herbe dessus.
Alors oui, il y a de l'herbe et aussi tout le temps... Quand vous les voyez, ils sont même protégés par des arbres. Donc ça s'appelle un passage à faune. Et en fait, pourquoi on a fait ça d'après vous?
Pour les animaux.
Ouais, pour qu'ils puissent du coup
passer.
D'accord. Donc là, notre animal, il va pouvoir faire.
Parce que s'il y a des cailloux sur le pont, ça peut le blesser.
Alors non, c'est surtout que nous, quand on a fait l'autoroute, on a mis des grillages. Et du coup, les animaux, ils ne pouvaient plus communiquer. Par exemple, s'il y avait ici des sangliers ou des chevreuils qui étaient restés, qui allaient ici, mais ils ne pouvaient plus du tout communiquer entre eux. Et nous, par ce passage, ils peuvent recommuniquer. Vous avez une entrée et une sortie. Bon, bien sûr, là...
Même les hérissons?
Même les hérissons.
Même les tortues de mer.
Ah oui, alors c'est plutôt pour les petits mammifères. Les tortues, non, pas forcément. Tout ce qui est grenouilles, crapauds, voilà, hérissons. Après.
Dans l'animal qui est dans l'eau avec les pattes palmées, c'est lequel? Vous la connaissez? Non, qui nage dans l'eau,
elle vient.
Non?
Mais c'est un
vrai. Doucement. C'est une loutre. C'est une loutre. Attends, on mène là l'hérisson. C'est lequel l'hérisson? Une petite empreinte.
Celle-là,
très bien.
Alors s'il vous plaît, non, ne le touchez pas, on vous l'a déjà dit.
Après le lapin, non.
Alors juste une autre grotte, les enfants ils ont des gilets oranges avec un logo AXA Assurance. Tous qui font de la pub pour AXA Assurance aujourd'hui. Les enfants. Et oui, AXA Assurance, dont l'association Les Amis de la Terre rappelait en 2018 que l'investissement à hauteur de 126 millions d'euros était allé vers des centrales et mines de charbon et de lignine en Pologne. Alors que plus personne, sauf peut-être AXA aujourd'hui, et avec elle tout un tas de grosses entreprises, ne songent à remettre en cause l'importance de la diversité biologique pour le présent et pour les générations futures, certaines activités humaines continuent pourtant à réduire le nombre d'espèces vivantes. Agriculture intensive et épandage massif de produits phytosanitaires, pêche intensive et élevage industriel, chasse d'espèces protégées, déforestation, etc. L'année 2018 a marqué le 25e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, appliquée par un certain nombre d'États signataires, elle a également été mise à mal par nombre d'autres, semble-t-il peu préoccupés par toutes ces questions ou soucieux d'abord de leur développement économique unilatéral. Autant dire que la mobilisation de tous est plus que jamais nécessaire. Et si la journée officielle et mondiale de la biodiversité a lieu le 22 mai, localement à Albi, sur le campus Font-Labour, des enseignants et étudiants bénévoles proposent une autre journée de la biodiversité. Après tout, la journée de la biodiversité, ça pourrait être un peu tous les jours. Voici des échos, micro en balade sur quelques-uns des stands de la 6e journée de la biodiversité. C'était le 18 avril 2019 sur le campus Albi Font-Labour.
On est ici sur le campus de Font-Labour pour la 6e édition de la journée de la biodiversité. Et donc on fait un petit tour des stands. Là on arrive devant, il me semble, vous allez me dire si je me trompe, c'est le stand de la section horticole du lycée Font-Labour.
Oui.
C'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. C'est les premières pros horticoles qui ont proposé ce stand.
Ok, super. Et donc vous, vos prénoms c'est
Moi c'est Kian de Malex.
Ok. Non, tu veux pas participer. Pas de problème. Et alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous proposez sur le stand aujourd'hui? Là, il y a plein de superbes plantes.
On propose des plantes tropicales, comme papier russe, des bégonias, enfin, tout ce qui est fleurs, plantes tropicales. Il y a aussi quelques plantes qu'on utilise pour les plantes d'extérieur, pour faire des haies. Et on propose aussi quelques fraises. Et pour plus de diversité, on propose aux gens d'aller au CER, au fond du campus, pour visiter et s'ils veulent acheter une ou deux plantes.
Ouais, c'est ça, du coup, les gens qui viennent ici, le public peut acheter les plantes que vous faites pousser dans le cadre de votre formation, c'est ça?
Oui, c'est ça, on les produit, on fait des boutures, on les rempote, tout ce qu'on fait ici, c'est nous qui le faisons. Il y en a certaines qu'on achète pour diversifier les choses.
Oui. Je comprends bien, oui. Vous ne pouvez pas produire toutes les plantes qui existent sur la planète, ce serait compliqué. Mmh. Et en tout cas, alors moi je suis jaloux de vos fraises, hein. Franchement, je dois vous le dire, moi j'en ai au jardin, elles ne sont pas comme ça. Hein. C'est... Comment vous faites pour avoir des fraisiers comme ça?
C'est notre prof qui les produit, c'est pas nous qui les avons fait, notre section c'est pas nous.
Okay.
Mais en tout cas, ouais, on les a bien produites, bien arrosées, du coup elles sont bonnes, bien grosses là.
Ouais, c'est ça, les feuilles elles sont magnifiques là, vertes, énormes, on sent que ça va donner dans pas longtemps, il y a déjà les fleurs qui sont sorties.
Il y a déjà les fleurs et une ou deux fraises qui est en train de grossir. Là.
Okay. Eh bien super. Et alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus comment ça se passe votre formation? Qu'est-ce que vous apprenez du coup pendant cette formation horticole ici à Font-Labour et vers quoi ça peut vous emmener?
Dans notre section, on apprend tout ce qui est reconnaissance des végétaux, mais bientôt ça va être enlevé à cause des nouvelles réformes du bac. Et tout ce qui est technique, l'agronomie, tout ce qui est la physiologie des plantes, l'arrosage, tailler, rempoter, tout ce qui est technique.
Okay.
Et ensuite, on passe comme aujourd'hui, nous on est en CCF là.
CCF.
On est en examen. un examen.
Ah, d'accord. Un contrôle continu de formation, c'est voilà. Ça
on présente un présentoir, là, et on va vers les clients, on donne des prospectus, on leur donne des conseils, et on vend les plantes.
D'accord. Mais vous pourrez dire à votre prof que vous faites ça très très bien, et même en bonus, vous avez répondu aux questions de Radio LBGS.
Non, mais merci.
Ça pourra compter, dites-lui, ça comptera un point en plus dans le contrôle continu.
Si vous croisez notre prof, dites-lui, ils ont bien travaillé, donne-lui un point, il a bien mérité.
Ça marche, vous me donnerez son nom tout à l'heure, en antenne. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, tout à l'heure, tu as parlé juste des nouvelles réformes du bac et donc des choses qui allaient disparaître. Est-ce que pour toi, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Les choses, il y a peut-être des choses qui vont disparaître, d'autres qui vont arriver. Comment ça va se passer l'avenir un peu de cette formation?
Ce qui va être enlevé, c'est la reconnaissance des végétaux. Parce que là, les secondes qui sont arrivées, ils vont aller en première, mais il n'y aura plus cette section. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus faire les CCF reconnaissance des végétaux. Et du coup, dans la formation du bac... Ça a été enlevé, du coup, c'est un demi-point de qui est enlevé au bac. D'accord. Parce que c'était coefficient 0,5.
Ok, d'accord. Mais le contenu de la formation ne sera pas très modifié, à part cette section qui va disparaître, peut-être ?
Ça va être supprimé. Mais pour ceux qui ont commencé il y a déjà des années précédentes, ils vont continuer jusqu'au bac. Okay. Par exemple, moi, je suis fort dans ce domaine-là. Je les connais quasiment toutes, ce qu'on a appris, là. Et ça m'aide à augmenter ma moyenne de 0,5. Hein.
Ouais, c'est toujours ça, hein, on prend les points là où on peut. Hein. Et du coup, à quoi vous vous destinez, toi ou aussi ta collègue qui est ici sur le stand, c'est quoi un petit peu les opportunités de travail qui vous sont offertes à la sortie de cette formation?
À la sortie de cette formation, on a le bac pro. Mmh. Et on peut travailler, soit continuer dans les BTS, ou alors travailler dans des fermes, dans des entreprises maraîchères. Ou être salarié, ou on peut même commencer à devenir un entreprenant.
D'accord. Il y a une section donc maraîchage aussi, pas seulement plantes décoratives.
Non, dans la section horticole, on fait des plantes, des légumes, du maraîchage, des fleurs. Il y a plusieurs sections, okay. Mais tout est regroupé dans cette matière. Okay.
Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette journée de la biodiversité? Vous la faites depuis combien de temps là du coup?
Ça fait déjà 2 ans, et puis aujourd'hui c'est sympa. Il y a juste le vent qui nous embête un peu, ça nous renverse les plantes.
Ouais, mais elles sont magnifiques en plus, j'espère qu'elles vont pas trop souffrir. Et est-ce que tout le reste de l'année, est-ce que les gens peuvent venir au lycée Font-Labour pour peut-être regarder, visiter votre serre et continuer à acheter des plantes comme on peut le faire aujourd'hui?
Déjà les serres sont ouvertes la semaine, le lundi après-midi et le vendredi après-midi. Et puis on a une autre sortie, une autre journée porte ouverte. Pareil, le 11 mai, le samedi.
Okay. Le samedi 11 mai, ça va arriver très vite, ça.
Ah oui,
super. Merci beaucoup à vous.
Merci, mais oui, de rien.
Et donc, à retrouver sur Radio LBGS pour cette journée de la biodiversité.
Vous êtes toujours à l'écoute des échos micro en balade sur quelques-uns des stands de la 6e journée de la biodiversité. C'était le 18 avril 2019 sur le campus Albi Font-Labour.
Est-ce que je peux intégrer le...
Ah oui, mais je pense que si vous tendez le micro en rentrant dedans, vous allez apprendre plein de choses.
Ok. Et du coup, c'est quelle association?
Alors, c'est pas une association, c'est pour le coup, c'est une entreprise qui a 21 ans d'expérience maintenant. On est spécialisé dans la distribution de solutions naturelles pour les agriculteurs et les pros de l'espace vert. Donc, l'idée générale, c'est de stimuler la vie des sols, régénérer les sols. Puisqu'il y a des besoins, et on les accompagne. Donc quand il y a des projets en lien avec l'agronomie, on est là pour les aider. Alors ça se base sur des solutions produits qu'on vend en direct, c'est-à-dire qu'on fait tout, c'est l'occasion d'une visite à l'opportunité, et puis après ça se développe par réseau, et puis derrière on les accompagne sur de la technique derrière pour montrer que ce qu'on a promis des solutions le font bien, et de regarder comment ça évolue en termes de structure, de vie du sol sur les ans. Et donc avec un accompagnement technique derrière. Okay. Et des compétences là.
Et oui, justement, avant d'aller dans la fosse, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous avez mis en place aujourd'hui?
Jour, donc c'est quand même la journée de la biodiversité. Donc ce qu'on fait là, c'est en fait un diagnostic de sol. C'est de regarder en fait les grandes propriétés de ce sol au niveau physique, chimique et biologique, qui sont des constituants importants de ce sol-là. Et on a axé ça autour de vraiment la vie biologique, biodiversité, au service de la fertilité et de la productivité de ce sol-là. Alors après, on sait s'adapter, parce que là, bon, manifestement, c'est plutôt, je pense, des profs. mais ça a pu être des classes de CE1, ça a pu être des BTS ou des 3e ou des secondes, ou des gens qui avaient déjà travaillé, qui revenaient dans le cursus scolaire, qui étaient déjà des pros en fait, et qui n'en attendaient pas les mêmes choses. Donc le tout, c'est de réussir à s'adapter, parce que le message soit bien compris, parce que c'est pas la même pédagogie, c'est pas le même niveau. Et on a vu de tout aujourd'hui, c'était super chouette. Donc, alors, j'ai l'impression que c'est sur le départ là. Allez, je vous invite à aller. Allez, rapidos, ou de reprendre avec Elodie toute seule au pire, mais.
Bah ouais, je vais aller demander. Sinon, peut-être un petit tour rapide, parce que ça doit faire 15 fois qu'elle répète la même chose.
Ouais, mais non, parce que finalement, on change toujours en fonction de l'interlocuteur. Donc,
allez.
Bon, bah, beau.
Un nouveau client.
Alors, attention, plutôt par là-bas. Je pense.
Je vais pas tenter le saut là, ici. C'est quand même assez profond là. Bah, merci beaucoup. Allez, je vais aller voir ce sol.
On a une seule équipe.
Je sais pas. Pour la radio.
Radio Albigès. La radio associative d'Albi.
Bonjour.
Alors du coup, votre collègue m'a déjà fait un petit peu la présentation de ce que vous faisiez aujourd'hui. Et là, on est dans un trou pour étudier du coup, les différentes couches du sol, j'imagine.
Ouais.
Combien de mètres il fait là, ce trou?
Alors, il fait 1,30 m de profondeur. Ouais. Et l'intérêt, c'est vraiment d'aller observer ce sol de près pour identifier les facteurs limitants et favorables pour favoriser l'implantation des végétaux.
Ok, et donc du coup c'est nécessaire d'aller jusque aussi profond dans le sol pour voir comment il est fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il continue à être vivant?
Donc du coup c'est pas nécessaire parce qu'on peut faire des cours théoriques avec des super projecteurs en classe. Mais c'est pratico-pratique et c'est très parlant aujourd'hui, puisque comme on peut le voir, on peut dire en classe qu'on va avoir du racinaire qui va descendre jusqu'à 1,30 m, mais tant qu'on ne l'a pas vu, c'est comme Saint Thomas.
D'accord, ok, j'ai compris la comparaison.
Voilà.
Et du coup, là, ce sol, là, on est donc sur le campus de Fond-Labour. C'est quoi ses caractéristiques? Est-ce que vous pouvez nous le présenter un petit peu? On va essayer de faire ça de manière radiophonique.
Ouais, c'est pas évident parce que c'est assez visuel. Donc,
je comprends, mais on voit clairement qu'il y a quand même plusieurs couches différentes.
Effectivement, déjà, on va distinguer trois horizons différents qui se distinguent par la structure, donc qui va être très grumeleuse et souple, aérée sur les 20 premiers centimètres, et qui va être plutôt très compactée sur les horizons plus profonds. Donc entre 20 et 90 cm, on a un horizon compacté qui est surtout limoneux. Pour le voir, il suffit de prendre de la terre, de mélanger avec de l'eau. Et là, on observe que la dame me l'a pris, mais on va réussir à faire ou pas un boudin. Voilà, qui va nous donner une idée sur la texture du sol.
Ok, limoneux. Moi, déjà, il y a un terme que je ne comprends pas.
Ouais, limoneux. Alors, le sol, il est fait de différents éléments. Et notamment, quand la roche mère, la roche se désagrège, elle va donner du sable. Donc, c'est très grossier. Le sable va se décomposer et va donner plutôt des limons. Et ces limons, ensuite, plus fins, vont donner de l'argile. Voilà. D'accord. Donc, ça nous donne la texture du sol.
Donc, limoneux et argileux, c'est à peu près...
C'est différent. C'est l'origine... du sol va être la même, mais voilà, l'argile c'est vraiment la partie la plus fine. Okay. Et cette argile va avoir la particularité de se complexer avec de la matière organique que l'on voit en surface ici, une couleur plus brune, qui va avoir la particularité de former des agrégats et un terrain très souple.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que c'est... il me semblait avoir entendu que c'était justement dans les 20 premiers centimètres du sol que c'était là qu'il y avait un peu tout qui se passait, quoi, que le sol était riche.
Ouais, tout à fait. Effectivement, visuellement, on voit qu'on a 80% des racines dans les 20 premiers centimètres, mais on voit quand même qu'on est capable d'avoir des racines jusqu'à 1,20 m. Donc comment, pourquoi? L'intérêt de faire le profil, c'est qu'on voit très bien que la galerie de verre qui est descendue jusqu'à 1,20 m a largement permis la colonisation par le niveau racinaire. Parce que l'air circule, l'eau circule, et ça, mécaniquement, ça favorise l'enracinement.
Donc ça, c'est des vers qui ont creusé jusque-là, et les racines en ont profité du coup pour se développer.
Exactement. Okay. Comme vous pouvez le voir ici, le long de la galerie, ici, quand on a défriché, il y a quelque chose de très parlant, c'est qu'on voit naturellement l'enracinement qui est favorable, alors que si je suis à côté, j'en ai pas.
Ah ouais.
Vous voyez, c'est l'aspect mécanique. Regardez, là on le voit très bien. Vous voyez ici, on voit la galerie comme ça, et on voit la racine qui traverse.
Ah ouais. C'est vrai, vous pouvez peut-être pas le voir, mais en tout cas, c'est très parlant. Moi, je vois très bien ce que vous voulez dire.
En direct, là ?
Non, ne vous inquiétez pas, je ferai un montage. Non, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça me fait poser la question de... Il y a cette question du labourage pour les agriculteurs et de la profondeur auquel ils labourent. Et puis, c'est vrai que souvent, on a tendance à voir que plus l'exploitation est grande et plus les machines sont grosses et plus on va labourer profond. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut se dire si effectivement la vie se concentre dans les 20 premiers centimètres, est-ce que c'est pas un peu dommage pour le sol ?
Au vu de ça, c'est délicat de dire que la vie se passe dans 20 centimètres. Ce qui est sûr, c'est que
se concentre.
Ce qui est certain, certain, c'est que la vie, l'activité biologique est 10 fois plus intense autour de mon racinaire qu'ailleurs dans mon sol. Donc ça veut dire que si j'ai un racinaire ici, je peux avoir une activité biologique aussi intense qu'en profondeur. Donc après, aujourd'hui, vous parlez du labour. Quand on passe en bio, par exemple, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en reconversion bio, qui vont racheter une charrue pour ne serait-ce désherber mécaniquement leur sol. Mmh. Voilà. Donc il n'y a pas à porter de jugement tranché sur c'est bien, c'est pas bien. L'idée, c'est d'aller au mieux pour perturber le moins possible l'activité biologique de son sol, pour faire en sorte qu'il soit le plus fertile possible.
Okay.
Voilà. Ce qui ne s'affranchit pas de la fertilisation.
D'accord.
Dans certains cas.
C'est beaucoup de nuances très, très complexes.
Quand on parle de fertilité et de fertilisation, les agriculteurs comprennent.
D'accord. Et bien alors, on espère qu'ils nous écoutent. Ouais. Ben merci beaucoup à vous. Et bon courage sur cette journée de la biodiversité. Ouais, où est-ce qu'on peut trouver peut-être plus d'infos sur ce que vous proposez ?
Vous pouvez trouver sur le site internet Bio3G. Voilà, vous tapez Bio3G sur internet. bio3g.com, je crois l'adresse, et okay. Vous trouverez toutes les informations sur l'entreprise.
Ok. Merci beaucoup à vous.
De rien. Au revoir.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tout l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits de Reader's Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais une soive au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de son métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un village changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans ma tête un carnaval de confettis. J'en emmène jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau s'éteint. Je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, alors j'ai métier direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisse ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a quoi de
Merci à Andrea Lindsay pour cette reprise de Serge Gainsbourg, le poinçonneur des lilas. Paul, lui, est sorti du trou et continue son petit tour micro en balade sur quelques-uns des stands de la 6e journée de la biodiversité. C'était le 18 avril 2019 sur le campus Albi Follabour.
Je fais un petit tour pour Radio Albigès là, de ce qui se passe sur le campus.
Et le président,
qui
là,
veut...
allez-y.
On va voir le monsieur, le président, alors.
Ah ouais,
bonjour.
Sans moyen d'affiche là. Le monsieur, parce qu'il va prendre en échange, il va faire la pub.
Super.
S'il ne fait pas de la pub.
Mais c'est pour ça qu'on vous tend le micro, c'est pour que vous-même, comme ça, vous pouvez parler. Alors déjà, vous pouvez me dire votre prénom et quelle structure vous représentez ici là.
Mais c'est Philippe, je représente la Société Avicole de la Vallée du Tarn. Donc un regroupement d'éleveurs amateurs de volailles et d'animaux de pure race, de race ancienne.
C'est quoi que vous appelez éleveur amateur, du coup c'est que...
C'est parce qu'on n'en vit pas, quoi. C'est un loisir.
D'accord.
Okay. Uniquement, un loisir.
Et donc vous êtes regroupé en association comme ça
Oui, c'est ça, une association, ouais.
Ok, super. Et donc du coup, c'est quoi votre l'intérêt? Vous continuez à perpétrer des races de poules peut-être qui allaient disparaître,
oui, exactement. Si personne ne s'en occupait, mais ça allait disparaître parce que au profit d'animaux un peu plus rentables, on va dire.
Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a là, par exemple, comme espèce que vous montrez aujourd'hui? Vous les avez amenées, elles sont là dans des cages, donc le public peut les voir. C'est super interactif.
Il y a des pigeons, il y a des lapins, il y a des poules de race Sussex, poules soie, marans, des lapins bleus de Vienne, des géants papillons, des pigeons romains, montauban, c'est des animaux sélectionnés de pure race.
Et alors vous, qui les élevez, est-ce que c'est quand même dans un but de consommation après pour les manger, pour les œufs, ou est-ce que c'est vraiment juste pour le plaisir d'élever ces animaux-là?
Mais les deux, parce que les œufs, soit ça va en couveuse pour la continuité, soit ça, on peut en manger aussi, mais surtout c'est faire connaître et faire des concours de standard.
Ah ouais.
Voilà, nous faisons des concours, ça démarre en octobre jusqu'en mars, et voilà, avec des championnats régionaux, championnats de France, et tout sur le critère du standard.
Okay. Voilà. Et alors, vous avez déjà eu quelques récompenses
Oui, dans notre association, nous avons plusieurs champions de France, plusieurs champions régionaux. La société avicole a 50 membres, donc c'est quand même une société qui... Voilà.
Ok, bah, c'est super intéressant, j'ignorais tout de ça et je découvre avec plaisir. Est-ce que peut-être, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un événement là, qui se passe bientôt, vous voulez nous parler un petit peu, quand est-ce que ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer?
Le 5 mai, nous organisons notre 18e foire aux poussins à Coufouleux. Coufouleux entre Albi et Toulouse, et donc il y aura des animaux uniquement de pure race, de race ancienne, exclusivement des poussins et des œufs à couver, voilà.
Et donc du coup ça c'est si on est intéressé pour soi-même élever des poules, c'est ça
C'est exactement ça, okay. Pour venir nous rencontrer si vous voulez élever des poules chez vous et ne pas avoir de la poule industrielle, avoir de la jolie poule.
Et du coup, pour avoir une petite idée un petit peu, c'est quoi les tarifs si on veut investir pour avoir un petit poulailler avec 2-3 poules?
Ça dépend, c'est relatif, tout est relatif. Ça peut aller de 10 à 40 euros pour les sujets qui ont fait des bons résultats en exposition. Voilà. Maintenant, après, avec 10, 15 euros, vous avez une jolie poulette. Hein.
Ah ouais.
Voilà.
Et donc, qui va nous donner un œuf par jour, quoi.
Pas par jour, peut-être, mais disons 4 œufs par semaine, on va dire.
C'est vite rentabilisé, quoi.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup à vous.
Allez.
Du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter la structure pour laquelle vous êtes?
C'est l'OPI. Attendez, on va pouvoir vous en donner un exemplaire. Alors, c'est l'OPI. L'office pour les insectes et leur environnement. Alors c'est un office qui est national et qui est une émanation de l'INRA, de l'Institut National de la Recherche Agronomique. C'est de là que c'est parti, des gens qui étaient de l'INRA, qui faisaient de l'écologie et qui ont voulu faire quelque chose de ce type-là. Et
L'INRA,
l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et dans le Midi-Pyrénées, on a l'OPI Midi-Pyrénées, qui est un peu autonome par rapport à Paris, et sur laquelle on a des programmes, notamment de connaissance de certaines populations d'insectes, notamment connaissance des orthoptères, c'est-à-dire des sauterelles, ou des libellules. Et c'est comme ça qu'on a pu voir qu'il y avait des libellules qu'on ne connaissait pas, et qui sont arrivées chez nous, des nouvelles libellules qui commencent à coloniser nos cours d'eau, et qui viennent d'ailleurs.
Mais ça se passe actuellement, ça ?
Oui, tout à fait, oui. Mais avec le réchauffement climatique, à l'heure actuelle, on assiste à une certaine... dans certains cas, on assiste à une certaine migration des insectes. On a par exemple des libellules qui étaient avant en France et en Europe continentale et qu'on retrouve maintenant dans le sud de l'Angleterre. Ils ont passé la Manche et ils se retrouvent de l'autre côté. Et comme pour les plantes aussi, on arrive à avoir des plantes qui sont... Et d'autre part également, on travaille pour essayer de voir si des espèces invasives, quel est l'impact des espèces invasives comme le frelon asiatique, comme la coccinelle asiatique, voir quel impact ça a sur la population locale.
Peut-être juste se décaler un petit peu, comme ça on entendra moins le son du bâtiment. Alors il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que vous proposez ici aux personnes et puis,
Ici c'est de la formation.
Ouais.
C'est de la formation. Et on est capable d'aller dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à ce qu'est un insecte, quel est son rôle dans l'écosystème, etc. Et puis, on a des gens qui appartiennent à l'Université de Toulouse, également, qui sont dans le conseil d'administration, qui font des recherches, et qui aussi proposent des recherches pour des futurs chercheurs, notamment le long des cours d'eau du Midi-Pyrénées, quoi.
Et vous qui êtes spécialisé dans les insectes, alors j'imagine que vous êtes sûrement parmi les mieux placés pour nous dire un petit peu c'est quoi la situation actuelle. On parle beaucoup d'extinction de masse des insectes. Oui. Est-ce que c'est véritablement inquiétant comme on l'entend?
C'est très certainement à suivre de très près. Mm-hmm. De très près parce que, effectivement, notamment dans les populations de papillons, et alors, les insectes ont un rôle immense à jouer, notamment dans la pollinisation. Alors, la pollinisation, il y a deux agents principaux qui font la pollinisation. Le vent, d'une part. Donc, nous, on est bien placés, là. Et puis les insectes qui vont d'une fleur à l'autre et qui pollinisent, qui transportent le pollen, qui peuvent transporter le pollen d'une fleur à l'autre. Donc, si on supprime les insectes, on supprime les mêmes coûts. Alors, on parle des abeilles, mais les abeilles ne sont pas seules dans le coup. Les abeilles font environ 15 à 20% de pollinisation. Le reste est fait par des mouches. Beaucoup de mouches floricoles, comme les cirfes, par des petits coléoptères qui se baladent sur les fleurs, qui sont floricoles. Et donc, il y a beaucoup d'insectes qui se baladent sur les fleurs et qui permettent de faire une pollinisation. Et si on n'a plus d'insectes, alors là, il faudra la faire à la main. Bon courage.
Oui, c'est sûr que si on doit se mettre à remplacer les abeilles et à aller butiner nous-mêmes avec des cotons-tiges, chacun des pistils, on n'est pas sorti de l'auberge.
Avec un petit pinceau. Alors, ça se fait. Avec un pinceau, ça se fait déjà, mais dans des enclos qui sont relativement... des choses qui sont relativement closes, quoi.
Oui, ou même pour la reproduction de certaines espèces aussi.
Bien sûr. On a ce... Mais faire ça dans une forêt, c'est improbable, quoi.
Et tout à l'heure, je vous entendais parler aussi des espèces invasives comme le frelon asiatique. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le coin parce que on les voit, on en parle. C'est quoi la véritable dangerosité? Est-ce que c'est il faut mettre des pièges?
Ce sont des animaux qui n'ont pas de prédateurs chez nous. Donc, leurs populations ne peuvent pas être régulées. Donc, ils peuvent avoir un développement infini, qui va juste être régulé par les conditions du milieu, par les conditions météorologiques, par exemple. Mais chez nous, il fait bon, il fait le frelon asiatique s'y trouve comme un poisson dans l'eau. Alors, il y aurait peut-être un petit problème, c'est que tous les frelons asiatiques qui sont ici ne proviennent que d'une reine. Si bien qu'il devait y avoir très certainement une, et on pense qu'on est en train de le voir à l'heure actuelle, et une dégénérescence génétique.
Comme une sorte de consanguinité.
Voilà, tout à fait. On est tout à fait dans la consanguinité, et ce qui pourrait amener à une dégénérescence des populations. Alors c'est un espoir.
Comme quoi la nature peut elle-même aussi
se réguler.
Encore un exemple.
Bien entendu.
Et est-ce que c'est utile quand même de mettre des pièges? On voit pas mal de vidéos qui tournent, certaines communes sont vraiment envahies.
Il faut faire attention à mettre des pièges qui soient dans les plus sélectifs possibles. Parce que le frelon européen, Vespa crabo, est un frelon qui est tout à fait utile et qu'il faut conserver, lui. Donc, pas tuer nos frelons sous prétexte. Et en général, quand on met des pièges mal faits, on trouve plus de frelons européens que de frelons asiatiques. Et ça pose problème quand même.
Ah bah oui, bien sûr.
Et alors, dans ces pièges-là, on peut aussi, quand ils sont mal faits, on peut aussi piéger des abeilles. C'est pas vraiment le but. Et même des micro-abeilles, et des choses comme ça, des abeilles solitaires, et c'est pas le but, quoi.
Alors peut-être vous pourrez nous faire un rapide rappel pour distinguer justement ces deux frelons. C'est quoi
le frelon,
pour distinguer très vite
le... Il est plus costaud, il est plus grand et il est bien jaune et noir. alors que le frelon asiatique, il est plus sombre. Il est plus petit, légèrement plus petit, il est plus sombre, il est brunâtre.
Okay. Il n'est pas rayé jaune
non.
et noir, quoi.
Non, non, il n'est pas rayé. Okay. Il est pas rayé comme le frelon asiatique. Et alors moi, je viens du Lot, et il y a quelques années, du frelon asiatique, j'en voyais beaucoup. Et l'année dernière, j'en ai vu un, quoi.
Donc, vous pensez qu'on est déjà dans ce...
Voilà, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on n'est pas en train de voir que les populations sont en train de diminuer à certains endroits? Alors, on me dit que dans le Tarn, il y en a encore beaucoup. Bon, à voir, à suivre.
Ouais. Moi, personnellement, je vois encore des gros nids sur les arbres, sous les charpentes.
Tout à fait.
Oui. C'est assez inquiétant.
Alors, les nids qu'on voit en hiver sont des nids qui sont vides, donc on peut les laisser. Et le problème, c'est que l'été, quand les frelons sont actifs et que les nids sont pleins, ils sont cachés par des feuilles, quoi. Donc on ne les voit pas. Et il semblerait qu'à l'heure actuelle, il y ait des prédateurs, notamment les oiseaux, qui commencent à s'occuper des nids, c'est-à-dire qu'ils viennent le matin quand les frelons sont encore inactifs. Ils font des trous dans les nids et ils bouffent le couvain. Ils mangent les larves. Ouais, ils mangent les larves. Et donc ça... Bon, on a aussi là un petit quelque chose de positif, quoi.
Ouais, c'est fou, vous n'empêche.
Les oiseaux s'adaptent à cette nouvelle proie potentielle. De même pour la pyrale du buis, dont on parle aussi beaucoup, qui est aussi un invasif, on voit qu'à l'heure actuelle, les petits passereaux commencent à s'occuper des adultes et des larves et des chenilles.
Ben c'est beau de voir la nature qui s'adapte quand même.
Mais nous, on fait partie de la nature et on s'adapte à toutes les conditions. Hein.
Oui. On lui a peut-être fait plus de mal qu'autre chose là, ces derniers temps. Hein.
C'est un autre problème.
Ouais, et merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc pour quelle structure vous êtes ici et où est-ce qu'on peut trouver plus d'infos si on veut en apprendre un peu plus?
Eh bien, l'OPI, le siège social de l'OPI Midi-Pyrénées, est à Gaillac, au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac. C'est là son siège. Et donc, il y a une personne, là, un permanent, qui est capable de répondre à toutes vos questions et de prendre tous les contacts. De même, si vous avez des insectes à nous montrer, des insectes qui vous intéressent, et on est tout à fait capable, on est toute une série de spécialistes, et on est tout à fait capable de vous dire ce que c'est.
D'ailleurs, au passage, allez-y au Muséum d'Histoire Naturelle de Gaillac, parce qu'il est vraiment magnifique. C'est un petit musée à l'ancienne, avec ces animaux derrière les vitrines. Vous en avez rapporté quelques-uns, là, j'imagine.
Voilà. Bien, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous voir.
Merci, à moi aussi, et puis très bonne journée.
Merci de même.
Au revoir.
Les insectes sont en déclin rapide dans le monde entier. Des chercheurs australiens ont fait un bilan à partir de 73 études qui est paru dans la revue Biological Conversation. Ils mettent en garde contre un effondrement catastrophique. Selon leurs calculs, environ un tiers des espèces sont menacées d'extinction et chaque année, environ 1% supplémentaire s'ajoute à la liste. La perte des insectes aurait des conséquences désastreuses, insistent ces chercheurs. Je cite, quand on parle de perte de biodiversité, le sort des grands animaux capte souvent l'attention. Or, les insectes sont d'une importance vitale pour les écosystèmes planétaires. Un tel événement ne peut être ignoré et devrait pousser à agir pour éviter un effondrement des écosystèmes naturels qui serait catastrophique. Les insectes sont par exemple indispensables à la pollinisation des plantes. Ils sont aussi un maillon fondamental dans la chaîne alimentaire. Les études se basent notamment sur les cas de l'Europe et des États-Unis où l'on dispose des suivis les plus réguliers. Mais pour ces chercheurs, les causes du déclin s'observent dans tous les pays du monde. Les insectes subissent donc le même sort dans les pays tropicaux et en développement. Localement, pour ce qui nous concerne et au-delà des insectes, sur cette journée de la biodiversité 2019 sur le campus Albi Font-Labour, cette cause est l'affaire de tous et toutes, à tous les âges, à tous les niveaux, notamment celui des chasseurs.
Petit tour des stands ici sur la 6e journée de la biodiversité à Font-Labour. Et donc là, on est avec le stand des chasseurs du Tarn, c'est bien ça, plus ou moins?
Oui, tout à fait, bonjour.
Bonjour à vous. Et donc du coup, qu'est-ce que vous proposez ici au public aujourd'hui et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la structure que vous représentez?
Donc nous, ici, on avait un stand qui était basé sur tout ce qui va être mammifères et faune sauvage, avec notamment les empreintes, les fourrures et des animaux naturalisés, et tout ce qu'on peut mettre en place derrière comme aménagement pour favoriser et la faune sauvage et la biodiversité en général. Et on a un deuxième élément qui est le Naturobus, qui est une maquette en très très grand format qui est interactive et qui permet en fait de découvrir, notamment pour les scolaires, mais aussi pour les adultes, la biodiversité, les interactions qu'il y a entre l'homme et la nature, et tous les aménagements qui peuvent être construits en faveur de la biodiversité, avec les passages à faune, la plantation de haies, des jachères, etc.
Et alors, quel est le lien entre chasse et biodiversité ?
Alors c'est vrai que bon, c'est pas toujours quelque chose qu'on nous associe, mais en fait les chasseurs sont aussi directement liés à la biodiversité, puisqu'en fait on a aussi pour rôle la préservation des habitats de la faune sauvage, et ça fait partie de nos rôles de préserver ces milieux par les aménagements, voilà, comme je disais, donc jachères, on propose des contrats par exemple de jachères auprès des agriculteurs, on va proposer un retard de déchômage, de la plantation de haies avec arbres et paysages tarnais par exemple.
Et c'est quoi que vous appelez par exemple un contrat de jachère, je sais pas.
Alors contrat de jachère, c'est, on propose ça à des agriculteurs, ça va être de mettre en place un couvert continu d'une période généralement automne jusqu'au printemps, un couvert hivernal par exemple. Et ça va permettre d'éviter, je ne sais pas si vous êtes baladé un petit peu sur le territoire, on voit souvent des champs nus. En fait, c'est vraiment que de la terre, il n'y a rien du tout. Et donc là, c'est un désert pour l'écologie, évidemment. Et donc nous, on propose des mélanges qui vont être semés et qui vont permettre d'avoir un couvert toute l'année, ce qui va permettre d'abriter une biodiversité, aussi bien un petit gibier donc, qui nous intéresse en tant que fédération, mais aussi la biodiversité en général, comme zone de refuge, zone de nourriture ou de reproduction pour toute l'année, toute la biodiversité.
C'est aussi qui va favoriser le sol aussi, puisque le sol il va bénéficier aussi du coup de toutes ces végétations.
Exactement, oui, ça favorise aussi la microfaune du sol et le maintien aussi du sol, puisqu'on a pas mal des fois de pertes de ravinement avec la pluie, etc. Alors ce sol à nu, donc effectivement, tout ce qui va être maintien d'un couvert, ça permet de stabiliser le sol au-delà des effets biodiversité, effectivement.
Bon, je vais forcément vous poser la question que j'imagine on a dû vous poser peut-être quelques fois aujourd'hui, mais comment conjuguer la chasse qui consiste quand même à tuer des animaux avec une biodiversité, est-ce que c'est pas rentrer un petit peu en conflit? Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça?
Moi, par exemple, je suis même pas chasseur, hein, je travaille à la fédération, mais je comprends très bien ce lien qu'il y a. Et on a aussi cette nécessité en fait, de réguler les espèces. Un gros travail des fédérations de chasse, c'est avant tout de mettre en place les plans de chasse, ce qu'on appelle plans de chasse, d'établir l'état des populations, et donc établir en fonction ce qu'on peut tirer ou pas, voire peut-être de mettre sous cloche certaines espèces pendant une certaine période. Donc on a vraiment ce rôle en fait de régulation des populations. On voit par exemple dans les départements limitrophes où ils ont des explosions de sangliers qui ne sont pas contrôlées. Nous par exemple dans le Tarn, on a des dégâts de faune sauvage qui sont restreints. Et on a quand même des belles populations, notamment de cervidés, donc on estime avoir fait quand même un bon travail. Et après, au-delà de ça, alors c'est vrai qu'il y a le fameux chasseur premier écologiste de France qui est souvent mal pris, mais c'est vrai parce qu'il est mal interprété. Mais disons qu'on est beaucoup amené à être sur le terrain en fait. On est une grande force de frappe à partir du moment où on est unis pour faire notamment des aménagements. On a réalisé des contrats d'aménagement avec une société de chasse sur Dourgne dans le cadre du réseau Natura 2000. Et là, les chasseurs se sont mis ensemble et on a fait un beau projet, on a monté un beau projet de réouverture de prairies sèches. Et donc voilà, c'est notre force aussi, c'est de pouvoir rassembler et d'avoir des gens sur le terrain.
Mais je comprends bien. Bon, après, évidemment, c'est toujours compliqué de voir l'application concrète sur le terrain, même si on peut donner toutes les cartes en main, on va dire, aux chasseurs eux-mêmes. Après, reste à ce qu'eux l'appliquent correctement dans leur pratique. Malheureusement, c'est pas toujours le cas des fois.
Après, voilà, bon, je vais pas dire qu'il y a des imbéciles partout, mais bon, je pense que personne n'y échappe.
Je comprends bien. Mais merci beaucoup à vous, en tout cas. Et puis, je vous laisse continuer donc cette journée de la biodiversité, ici à Fond-Labour.
Merci à vous.
Et où est-ce qu'on peut trouver peut-être juste plus d'infos sur votre fédération, si on est intéressé?
Après, on a le site de la fédération, qui doit être Fédération des chasseurs du Tarn, hein, tout simplement, qui vous pouvez trouver sur Internet. On a une page Facebook également. Et sinon, vous pouvez nous trouver au siège de la fédération, qui se trouve à Albi, chemin du séminaire du Roc.
Okay.
Et on sera ravis de répondre à vos questions, si besoin.
Ben, merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
«
Merci à Paul pour ce micro en balade sur quelques-uns des stands de la 6e journée de la biodiversité du 18 avril 2019. Merci à toutes les associations et entreprises croisées ce jour-là. Merci à AXA Assurance qui l'encourage à tenir ses engagements écologiques. Merci à l'association Les Amis de la Terre pour leur vigilance sur le greenwashing. Merci au site www.journée-mondiale.com. Merci à RFI. Et pour la musique, merci à Led Zeppelin, merci à Matafix, merci à Andrea Lindsay et à Serge Gainsbourg. Et on se quitte sur une note positive. Allez, Alicias.
Est-ce que vous sentez du coup un vent tourner un petit peu au niveau de la profession, qu'on commence à peut-être se poser les bonnes questions par rapport à la vie dans le sol ou,
Ouais, ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait 11 ans que je travaille pour l'entreprise. Et tous les agriculteurs que je côtoie au quotidien sont très sensibles à l'activité de leur sol, à la vie de leur sol. Voilà, parce que en élevage, la vie du sol, c'est la qualité des fourrages et c'est le bien-être pour les animaux. Et puis, quand on est en céréalier, la fertilité du sol, meilleure elle est, et moins on utilise d'éléments nutritifs en apport. Et où, quand on a une bonne fertilité de son sol, le peu qu'on amène, c'est énorme.
Et du coup, est-ce que vous avez des cas d'agriculteurs qui ont tué leur sol, peut-être, à trop utiliser de produits déconseillés pour le sol ?
Tuer, c'est un peu fort, parce qu'on ne désinfecte jamais son sol. Enfin, dans le sol, la vie, elle sera toujours là. L'idée, c'est de la réveiller pour l'exprimer. Donc, on peut l'inhiber en fonction de ce qu'on amène ou du travail que l'on fait, mais c'est jamais perdu.
Notre animal, il va pouvoir faire.